Bonjour Éric Dereau.
Bonjour.
Sait-on combien de soldats issus des colonies françaises ont participé à ces 10 mois de combat à Verdun ?
Alors en tout, 8 divisions issues de l'Empire ont participé à la bataille de Verdun. L'effectif d'une division à l'époque, c'est 12 000 hommes, donc on peut considérer qu'environ entre 90 et 96 000 hommes issus de l'Empire, aussi bien de l'Empire d'Afrique du Nord que de l'Empire subsahélien, que d'Indochine ou de Madagascar.
Alors quand vous dites issus de l'Empire, ça veut dire qu'il y a des combattants qui sont en fait des combattants blancs, installés dans l'Empire colonial, mais aussi des indigènes.
Absolument, absolument. Par exemple, le régiment d'infanterie coloniale qui va se couvrir de gloire par la reprise du fort de Douaumont à la fin 1916 est un régiment de soldats européens qu'on avait à l'origine formé pour participer à la campagne du Maroc. De même qu'il y a des régiments d'infanterie coloniale qui sont composés d'Européens, de même que dans ce qu'on appelle l'armée d'Afrique, qui en réalité est l'armée d'Afrique du Nord, il y a énormément de Zouaves. Les Zouaves, bien qu'ils aient une tenue dite à l'orientale héritée des premiers temps de la conquête de l'Algérie, sont des Européens.
Et alors spécifiquement, sait-on combien de soldats maghrébins, noirs africains, malgaches et indochinois, c'est-à-dire des soldats indigènes, combien ont participé à cette bataille ?
Alors c'est difficile, ce sont des statistiques extrêmement difficiles à établir parce qu'à l'époque, la France n'établit pas de statistiques ethniques. Un soldat est un soldat. Et simplement, on peut estimer comme ça qu'avec la composition des différentes unités, je disais qu'il y a environ 8 divisions issues de l'Empire, soit 90 à 96 000 hommes parce qu'il faut y ajouter des services, l'artillerie, dans lequel servent beaucoup de soldats indigènes. Par exemple, l'artillerie est essentiellement malgache. On peut estimer que plus de la moitié des effectifs, c'est-à-dire environ plus de 50 000 soldats indigènes à l'époque, puisque c'est le terme de l'époque, participent à la bataille de Verdun sur l'année 1916.
Y a-t-on une idée des pertes dans ces unités ?
Alors les pertes, elles sont là aussi assez difficiles à établir. Ce qu'on appelle pertes en termes militaires, ce sont les tués, les blessés, les disparus. Et éventuellement aussi, on pourrait y ajouter dans un second temps les prisonniers. Les pertes varient entre le tiers de l'effectif et, lors de certains combats, montent jusqu'à 50% des effectifs.
C'est à peu près le même ratio que dans les unités métropolitaines ?
C'est le même ratio dans les unités métropolitaines, d'autant qu'au cours de la bataille, très vite, le commandement s'aperçoit que, plutôt que d'engager des unités, par exemple des bataillons de tireurs sénégalais ou des compagnies mixtes, on va très vite créer des unités mélangées. C'est-à-dire que on va mettre des Indochinois dans un régiment d'infanterie française, on va mélanger un régiment d'infanterie coloniale européen avec des bataillons de tireurs sénégalais, le bataillon Somali, la compagnie Somali va intervenir au sein, à côté du RICM, on va mixer les unités.
Alors ce mix, il est fait sous le coup de l'urgence ou c'est réfléchi ?
Ce mixage des troupes, il est fait effectivement sous le coup de l'urgence, parce que il faut bien voir que la préoccupation principale du commandement français 1916, c'est pas Verdun, c'est la Somme, c'est la grande offensive de la Somme qu'on prépare. Et c'est d'ailleurs sur la Somme que vont être engagées l'essentiel des troupes coloniales, beaucoup plus qu'à Verdun. Si les troupes coloniales sont peut-être moins présentes à Verdun, c'est parce qu'elles le sont beaucoup plus sur la Somme. Donc la première raison, c'est qu'effectivement, on va chercher des hommes absolument partout. Faut pas oublier qu'une guerre comme celle-là, un front comme Verdun, il y a une première ligne, il y a une deuxième ligne, mais il y a tous les arrières. Et on oublie toujours le rôle des bataillons d'étape. Les bataillons d'étape sont les soldats qui entretiennent les voies sous les tirs ennemis, qui creusent, qui entretiennent les voies de communication. Et là, énormément de troupes indigènes. Et donc, l'autre raison, par ailleurs, pour laquelle on mixe les unités, c'est qu'on s'aperçoit que les unités dites indigènes, une fois de plus, les soldats dits indigènes, sont meilleurs dans l'assaut, sont meilleurs dans le combat que dans le statique. Et donc, on pense que ça va permettre de participer à certaines attaques, et c'est en particulier la raison pour laquelle, lors de l'offensive, la reprise, avec la bataille de marque un temps d'arrêt, les Allemands avancent jusqu'en juillet 1916. À partir de juillet 1916, l'armée française réussit à stopper. Petit à petit, elle reprend l'initiative. Et en octobre, il y a la reprise du fort de Douaumont. La reprise du fort de Douaumont, c'est tout à fait étonnant. Il y a le régiment d'infanterie coloniale, le 43e bataillon de tireurs sénégalais, la compagnie Somali. Il y a également des éléments malgaches, anamites. Enfin, c'est très intéressant. Et on voit bien que là, c'est la force de rupture, la contre-attaque qui va jouer. L'idée que ce sont les soldats aptes à l'assaut. Bon, donc en réalité, ce sont pas des troupes qu'on utilise en chair à canon. Il faut les encadrer et ensuite là, exploiter leur ardeur au combat.
Finalement, ils étaient traités et équipés de manière assez équivalente avec les métropolitains.
Non seulement de manière assez équivalente, totalement équivalente. Il n'y a absolument pas de distinction dans l'équipement, dans la dotation. Au contraire même, le commandement se préoccupe, en particulier pour les tirailleurs africains. On les dote, par exemple, c'est assez intéressant quand on regarde les manuels réglementaires, on les dote du chandail dit du modèle des chasseurs alpins. Ce qui prouve bien l'intérêt. On va augmenter la ration de noix de cola, on va augmenter la ration de riz, on va augmenter la ration d'huile, de façon à ce que ces hommes puissent tenir le choc. Non, faut faire très attention au mythe de chair à canon et de soldats africains qu'on envoie mourir à la place des blancs. Tout nous dit le contraire.
Est-ce qu'il y a une fraternisation aussi entre les tirailleurs et les métropolitains?
Oui, bien sûr. Je crois que dans les tranchées, alors bien sûr, il y a toujours un rapport paternaliste, parfois raciste, c'est évident. On est dans un rapport colonial, hein, dans un rapport totalement colonial. Mais malgré tout, malgré ce rapport colonial, malgré cette distance coloniale, la fraternité d'armes, surtout dans les tranchées, est quelque chose dont témoignent tous les récits, dont témoignent tous les survivants. Et je crois que là, devant, il y a une sorte d'égalité atroce devant la mort qui va réellement jouer.
Merci Eric Dereau.